sexe. Exploratrice. Avec Mel Trudel.
La sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de la sexploratrice en compagnie de Mel et Max.
Bonsoir.
Bonsoir, hello, hello, coucou.
C'est un peu ta marque de commerce, ça,
hello, hello, coucou. On l'a sorti là, de la publicité. Mais oui, puis le hello, hello, coucou, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en commençant par ça. Hello, hello, coucou.
As-tu pensé faire des t-shirts?
Ça j'aimerais ça. Mais j'y ai pensé quand j'ai vu les chandails sur le site de Radio X. D'ailleurs, vous pouvez toujours vous les procurer. Je me suis dit, peut-être que ce serait beau. Ça. Hello, hello, coucou.
Ça sonne bien, en plus.
Ça sonne bien.
Ça a l'air d'une toune de Mireille Mathieu.
Mais tu sais que ça, c'était un simple test de son que Pee-wee, mon amoureux, a gardé lors de l'enregistrement. C'est lui qui était derrière la console en prod. C'était avant la saison 1. C'était pour l'annonce de l'émission, du lancement de l'émission. Et c'est là que j'ai fait le test. Il me dit « OK, dis hello ». Hello, hello. Hello, hello, coucou. Et c'est resté. Il l'a gardé.
Ah, c'est arrivé c'est de façon inopinée comme
c'était
ça.
C'était pas voulu du tout. Wow. Et c'est resté. Et maintenant, tout le monde l'utilise et je trouve ça très drôle.
La spontanéité.
Spontanéité. Voilà. Bon, alors, écoute, ce sera une émission chargée d'émotions.
Ouais.
Puisqu'on est à quelques jours de la cérémonie de l'hommage, en fait, pour notre cher collaborateur Yvon Dallaire, qui nous a quittés le 31 janvier dernier. J'en parle avec encore beaucoup d'émotions. Je commence à me faire à l'idée qu'il ne reviendra pas du Costa Rica, mais on dirait que j'y crois toujours pas. C'est vraiment, vraiment étrange. Mais ce soir, on va lui rendre hommage. On va parler de notre cher Yvon, qui est décédé d'une bronchopneumonie en voyage, finalement, lorsqu'il était au Costa Rica. Donc, durant quelques jours, là, il a été hospitalisé. Son état s'est dégénéré. Et j'ai eu la chance d'échanger avec lui durant ces derniers jours. J'étais persuadée qu'il allait revenir, honnêtement. Mais c'est pas le cas. Donc, sa conjointe Renée est revenue. Je lui ai parlé là encore hier, très émotive. C'est une cérémonie qui va rester somme toute intime pour les proches et la famille. Et j'ai l'honneur aussi de lire là, des mots d'amis qui sont à l'extérieur qui ne pourront pas être... Parce qu'Yvon a des amis un peu partout sur la planète. Hein. C'est un homme tellement merveilleux. Puis c'est ça, j'ai vraiment envie qu'on rende hommage à tout ce qu'il a créé, ce qu'il a fait de bien autour de lui. C'est une personne extraordinaire qui a aidé tellement de couples et de personnes à s'épanouir. C'était vraiment sa mission de vie.
Ben, j'ai envie de commencer avec ça, justement, de te poser la question suivante, parce que je suis persuadé que bon nombre de nos auditeurs qui le connaissent, mais oui. Yvon Dallaire, c'était qui?
Yvon Dallaire, c'est un homme tellement généreux. C'est un mari exceptionnel. Il était marié à sa belle Renée depuis 2014. Chaque personne qui croisait Yvon là, se sentait, chanceux. Il s'intéressait à nous, il voulait que notre bien. Puis Yvon, tu sais, pour faire un petit tour là, de ce qu'il a fait, en fait, c'est un auteur de 30 livres sur le couple et les relations hommes-femmes, dont une trilogie sur le bonheur conjugal.
30 livres.
30 livres.
C'est incroyable.
Et qui sont ces couples heureux? Un de ces livres, d'ailleurs, a été nommé par le magazine Psychologie, a été nommé parmi les 50 meilleurs livres qui changent une vie. C'est wow. Pas rien, là.
Non.
Et même Julie Snyder, on a parlé là, sur ses réseaux, il a été suivi par Yvon. Et elle en parle ouvertement. Yvon l'a aidé dans ses relations de couple. Puis c'est elle-même qui parlait aussi de ce livre-là. Elle a reçu Yvon là, sur son plateau. C'était vraiment une belle... vous pouvez revoir ça là, sur la page de Julie Snyder, dans le fond, sur son Instagram. Vous pouvez revoir ce passage-là d'Yvon à son émission. C'était vraiment très bon. Il était chroniqueur télé, radio, magazine, conférencier, créateur de formations en thérapie conjugale positive. Axé sur la gestion des crises et des conflits conjugaux. Il a été également de 71 à 89. Yvon a été professeur de psychologie au Collège d'enseignement général et professionnel de Sainte-Foy. Il est consacré depuis à sa pratique privée en consultation conjugale et individuelle. Il a été membre de l'Ordre des psychologues. Il a souvent défié l'Ordre aussi. Donc, il a été membre de l'Ordre des psychologues du Québec, l'Association des psychologues du Québec, le Répertoire canadien des psychologues en service de santé. Il a été membre du Regroupement des psychologues cliniciens de Québec et l'Association de médecine sexuelle du Québec et de l'Union. Ça fait partie là, de son bagage. Il était membre de l'Union des artistes. Puis ça, il m'en parlait souvent aussi. C'était
Qu'est-ce
très
qu'il
drôle.
Disait?
Quand on allait faire des chroniques ou des trucs comme ça, puisque je suis membre de l'Union des artistes,
Oh, il braguait ça?
Oui, vraiment, c'était vraiment très mignon de sa part. C'est vraiment, Oui, c'est vraiment un homme d'exception, en fait. Puis moi, je l'ai rencontré sur le plateau de Ma TV en 2016, si je ne me trompe. Ça a été un coup de cœur.
Votre relation, elle a commencé là en 2016. Ouais. Donc, j'ai envie de te demander, pour toi, Yvon, c'était qui?
C'était un ami. On avait une relation un peu par fille, là, si on veut. C'était une maudite belle relation.
Parce que vous êtes rencontrés, vous aviez quel âge tous les deux? En 2016, ça remonte à...
Ça fait 8 ans environ.
Quand même 8
donc,
ans.
Okay. Donc,
ouais. Tu étais à la mi-trentaine, Yvon était soixantaine.
Ouais, fin soixantaine, oui, exactement. Donc, c'est ça. Puis tout de suite, là, c'était comme, Mélanie, on pourrait faire des soirées pour tes célibataires, on pourrait faire des ateliers, ta, ta, ta. Déjà, il y avait plein de projets. Là. On était sur le retour de l'émission. Puis il m'en parlait. Puis tout de suite, ça a cliqué. On a débuté le lancement des soirées psychosexo avec Yvon et le docteur Yves Psalti, le coloré Yves, qui est un sexologue belge qui venait ici au Québec, avec qui on a présenté des tonnes de soirées.
Puis toi, est-ce que c'était tes premières armes dans le milieu des conférences?
Ah oui, ben oui, vraiment. J'avais jamais fait ça avant.
Tu vas être stressé, pour vrai, là, quand tu as rencontré Yvon, qui est un psychologue émérite, un psychologue d'envergure au Québec, puis partout dans le monde. Comment tu t'es senti d'avoir sa confiance?
Ça s'est tellement fait de façon naturelle, ça a coulé tellement naturellement. Ils m'ont mis à l'aise tout de suite, là, vraiment. Et je te jure, là, nos périodes de questions après les conférences, là, les gens pourront dire, c'était tout le temps complet là, à la scène Le Bourgneuf, excepté là, tout de suite après la pandémie, on en a fait une, il y avait un peu moins de gens. Je pense qu'on a eu la difficulté à ce moment-là, mais jusqu'à la pandémie, là, c'était fou, là, c'était des supplémentaires et des supplémentaires. 160, 180 personnes, des gens debout au fond de la salle. On en a fait à la scène Le Bourgneuf, à Montréal, au Centre Saint-Pierre. On en a fait à Saint-Georges, un peu partout au Québec, finalement. Et c'était fou, là. Les périodes de questions où les gens pouvaient interagir après avec nous, là, ça s'éternisait, là. Ça pouvait commencer jusqu'à 11h30, minuit soir, là. C'est fou, fou, fou. C'était fou. C'était incroyable. C'était vraiment le fun. Comment?
Il donnait beaucoup de son temps.
Ah, mais vraiment. Puis je me rappelle, il y a une soirée où je le sentais un peu fatigué. Yvon avait commencé à avoir des problèmes pulmonaires, là, déjà. Et l'avant-dernière soirée qu'on a présentée à la scène de Bourgneuf, je le sentais un peu essoufflé, un peu fatigué. Puis là, je me suis dit, oh, c'est parmi nos dernières, tu sais. Mais finalement, après ça, on l'a revu. Et même, j'ai invité Dani, notre collègue Dani Hull, à venir, René, Yvon, notre ami Denis. On est allé justement à une soirée chez Yvon. Là, c'est des soirées qu'on se faisait où j'allais dîner ou souper avec eux. Puis Dani est venu, puis c'était le fun. C'était une belle soirée animée, ils vont être en forme. Donc, on n'aurait pas pu s'imaginer... Oui, il y avait une petite fibrome, là, il y avait un petit début au niveau de ses poumons, mais j'aurais pas pu m'imaginer qu'il allait nous quitter comme ça. Tu sais, la dernière soirée où je suis allée chez Yvon, c'était à la fin de l'été, début de l'automne. Son ami Denis était là avec une autre amie, René, tout ça. On dansait la salsa dans le salon. Puis une vidéo de ça, Yvon, là, qui sélectionne la musique à la télé, tout ça. C'était vraiment, il était en forme. Puis la dernière fois que je les ai vus, c'était le 6 janvier. Je suis allée, je t'avais invité d'ailleurs à venir.
Ouais, je regrette de ne pas pouvoir.
Mais oui, tu pouvais pas, Dani non plus pouvait pas venir. Puis on a brunché, moi, Yvon et René. Puis jamais j'aurais pu me douter que c'était la dernière fois. Tu sais, montrer les photos de Samara, de son petit paradis.
S'en doute jamais, hein, quand ça arrive comme ça, quand un décès survient de façon aussi subite, on se remet toujours en mode rétrospective, puis on se dit, ben ouais, c'était la dernière fois que je l'ai vu, ouais. Pourtant il y avait de l'air en forme, la maladie l'a accablé quelques semaines plus tard sans qu'on s'y attende, mais ça met un point d'emphase sur vivre les moments pleinement puis en profiter quand on est avec les gens qu'on aime.
Parce dites-leur que à quel point.
C'est tellement cliché, là. C'est une phrase de fucking biscuit chinois, là.
Oui.
Mais c'est ça pareil. On ne sait pas quand ça va arriver. Il était en forme la dernière fois que tu l'as vu.
Absolument. Et c'était le 6 janvier. Le 8, il s'envolait. Si je me trompe, le 8 ou le 9. En tout cas, il s'envolait pour le Costa Rica. Puis tout ça a déboulé là, dans les semaines qui ont suivi. Il devait revenir le 23 janvier. Puis finalement, il a été hospitalisé. Puis c'est ça, ça s'est...
Yvon, il a aidé beaucoup de gens dans sa carrière. Beaucoup de couples, beaucoup de femmes et d'hommes à s'émanciper de leurs problèmes.
Vraiment.
Toi, en tant que femme, en tant qu'individu à part entière, qu'est-ce qui t'a apporté, Yvon?
Tellement. Yvon m'a apporté une façon de voir les relations différemment de comment je les voyais, en fait. Là. Puis c'est un peu grâce à lui que j'ai réalisé qu'on doit être un et avoir un plus un. Avoir quelqu'un de plus dans notre vie, qu'on ne doit pas tomber en amour, mais qu'on doit s'élever en amour. Ça, c'est quelque chose qu'il disait souvent. Puis c'est vraiment en discutant avec lui que Parce que clairement, j'étais dépendante affective avant, là, tu sais. Puis en discutant avec lui, tout ça, ben.
C'est avec lui que tu t'en es rendu compte?
Oui. Puis je me confiais beaucoup à lui, là, avec, lors de ma dernière relation, là. C'était quand même particulier comme relation. Une longue relation de 5 ans. Je parle de ma dernière longue relation, en fait, là, que je considère avoir été en couple et tout ça. Donc, puis ils m'ont éveillée à plusieurs niveaux. Puis Yvon a des phrases percutantes, là, qui te marquent.
Ça n'a pas de sens.
Et, ouais.
Je me souviens d'une fois, quand on était en onde, il disait « Faut jamais montrer à l'autre qu'on est malheureux dans le couple, parce que c'est mettre l'emphase sur ce qui va mal, alors qu'on pourrait mettre l'emphase sur ce qui va bien. » Ça m'avait jeté en bas de ma chaise, pour vrai, j'étais là, ben là, Yvon, si ça va pas bien, il faut le dire à l'autre. Il disait non, on dit pas quand ça va mal, on met juste l'emphase sur le bien parce qu'on veut créer du bien dans la relation. Il y avait des concepts comme ça qui sortaient vraiment du cadre, mais qui, ouais, après coup, m'ont permis de me refléter sur moi, puis la façon dont je menais mon couple, puis à m'améliorer sincèrement, puis à cause qu'il me dit ça, je prenais un peu moins le temps de mettre l'emphase sur ce qui allait mal. Évidemment, quand ça va pas bien, je pense que c'est une bonne idée d'en parler, là, mais ça, c'est moi, puis que ce que je connais dans la vie.
mais
ça m'a permis justement de me repositionner par rapport, ouais, à moi-même, puis ça, c'est quand même pas rien, tu sais.
En fait, lui, je pense qu'il parle surtout de communication merdique et communication florale.
C'est ça.
Donc, il y a une façon d'apporter les choses... T'sais, de, parce qu'il faut quand même, là, discuter. Mais je me rappelle aussi d'une fois, il nous a raconté, je pense que c'était lors de la saison 1 de La Sexploratrice, ça, il nous a raconté l'histoire d'un couple qu'il suivait. Et bon, il y avait... Parce que Yvon faisait souvent des thérapies de couple, mais prenait aussi à part monsieur et madame, ou les deux conjoints à part, là, si c'est homme-femme-femme. Il faisait pas beaucoup de couples homosexuels, mais je pense qu'il en a, il a commencé à en faire, ou en tout cas, whatever. Ce couple-là était un couple hétérosexuel et qui n'allait pas très bien. Mais tous les deux, chacun de leur côté, avaient confié à Yvon à être infidèle.
Ah.
Et ne voulaient pas le dire à l'autre. Ils n'ont jamais voulu le dire à l'autre. Et là, je ne sais pas finalement comment ça s'est terminé tout ça, mais c'est un couple d'infidèles qui clairement voyait ça vraiment d'une façon différente. C'est fou à quel point... C'est ce que je réalise, hein? Ce qui est bon pour un n'est pas bon pour l'autre. En tout cas, je sais pas.
Ouais, vraiment. Puis j'ai l'impression aussi qu'on peut trouver notre compte dans l'œuvre d'Yvon, peu importe le sujet, quand on parle de couple. Il a écrit des livres sur l'infidélité, il a écrit, oui, des livres sur comment dire adieu à un vieil amour, comment être heureux en tant qu'homme, comment être heureux en tant que femme, comment être heureux en couple. Écoute, quand tu me dis 30 livres là, dans une vie sur le sujet du couple, il y a vraiment... Il a vraiment mené une recherche de fond en comble sur qu'est-ce qu'est le couple.
Ah,
ça a,
oui,
été l'ouvrage de sa vie, ça a été l'expertise de sa vie. C'est quand même fou ce qu'il laisse comme héritage.
Oui, vraiment. Vraiment. Puis je sais que son fils, en tout cas, a vraiment l'intention de pouvoir faire perdurer tout ça et de rendre disponible ses œuvres. Et,
mais je l'espère bien, vraiment, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens.
Oui, tu sais, si on y va, juste par exemple, tu sais, par livre là, qui sont ces couples heureux, surmonter les crises et les conflits du couple, c'est le livre dont je parlais tout à l'heure, là, qui fait partie des livres qui changeraient une vie. Ça dit, bon, la passion se reconnaît à la présence de 5 éléments. La personne, objet de votre passion, assaille vos pensées de manière incontrôlable. Vous en rêvez jour et nuit et n'aspirez qu'à la retrouver. L'objet de votre passion est sans défaut. Vous avez enfin trouvé l'âme sœur tant recherchée depuis si longtemps. Vous vivez dans l'espoir que cette attirance soit réciproque et paniquée à la seule idée de perdre la source de tant de plaisir intense. Vos émotions sont véritables montagnes russes. Tout gage d'amour de la personne désirée vous transporte, mais toute hésitation de sa part vous angoisse. Pour rien au monde, vous ne feriez quelque chose qui pourrait lui déplaire ou la faire fuir. Et là, s'ensuit de ce fameux livre « Qui sont ces couples heureux? ». Il donne vraiment des trucs.
Y étais-tu bien en couple, Yvon?
Oui.
C'est une curiosité que j'ai.
Ah oui,
comment
vraiment.
Il appliquait ces concepts-là dans son couple? T'as connu sa femme?
Il était vraiment dévoué. Un homme dévoué, respectueux. Ah, c'était tellement un beau couple. Vraiment, René et Yvon. C'est un magnifique couple. Oui, vraiment. Puis René a... Ouais, elle est vraiment forte. Elle vit beaucoup de choses. Tu sais, veut pas. Un décès outre-mer, c'est pas évident à gérer.
Non.
Et ouais, donc ouais, c'est beaucoup d'émotions. Elle dit, oh, il est resté là-bas, le petit maudit. Mais tu sais, il pleurait là, les derniers jours. Tu sais, il savait là, il sentait que.
Il savait que la fin arrivait.
Ouais. Oui, c'est vraiment triste, mais je pense qu'on a quelques petits extraits qu'on pourrait faire écouter à nos
auditeurs. Oui, ce que je te propose de faire, c'est qu'au retour de la pause, j'ai distillé, comme dit notre ami Gary, un des premiers blocs d'une des chroniques qu'on a réalisées ensemble sur les couples heureux et les célibataires heureux, dans lequel Yvon nous donnait ses théories, il nous donnait des trucs pour être heureux en couple et célibataire. Alors après la pause, si jamais le cœur t'en dit, on pourra aller écouter ça. Puis ça serait une belle façon de lui rendre hommage aussi.
Mais absolument, vraiment. Et si vous avez des souvenirs à nous partager par rapport à Yvon, envoyez-nous ça, la sexploratrice à commercial, radiox.com, puis on va pouvoir vous lire demain soir.
La sexploratrice. Exploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.
De retour sur les ondes de choix 98.1 Radio X, vous êtes à l'écoute de la sexploratrice en compagnie de Mel et Max.
Yes.
Et ce soir, on a décidé de rendre hommage à notre cher collaborateur et ami Yvon Dallaire, qui nous a quittés le 31 janvier dernier. Il nous a quittés suite à une bronchopneumonie en direct du Costa Rica. Donc, il est décédé dans son petit coin de paradis, Samara.
Ouais, puis je voulais juste te dire merci aussi de t'être confié sur votre histoire dans le premier bloc. Je sais que c'est pas facile. Je sais que ça t'a beaucoup atteint, mais avec la grandeur de l'homme que Yvon était, je pense qu'on n'avait pas le choix de l'aborder puis de lui rendre hommage. Puis je t'ai senti très émotif.
Oui, vraiment. Puis je trouve que je manquais de mots. En fait, là, je suis désolée. On dirait que j'ai les idées embrouillées.
C'est l'effet que ça provoque. C'est normal. Ouais. Je veux dire, c'était quand même un choc. Puis c'est quand même quelqu'un d'important dans ta vie. Fait que je tenais à te dire merci au nom des auditeurs. Puis au nom de sa famille aussi. C'est vraiment cool.
Mais vraiment, mais. Yvon, en tout cas, j'espère qu'il y aura quelque chose d'encore plus grandiose qui lui sera créé. Là, je pense qu'avec son fils, avec Jean-François, en fait, là, je discute presque tous les jours. Là, on va regarder peut-être pour lui rendre hommage ou faire un petit quelque chose de spécial. Pas pour le moment, là. Je pense que la famille est peut-être pas prête et tout ça, là, mais éventuellement, je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être fait, là, d'être célébré, là, parce que son passage sur Terre a pas laissé grand monde indifférent. Là. Personne, en fait, même.
C'est vrai.
Vraiment. On va vous permettre d'écouter un extrait de l'épisode 34. On a eu la chance de recevoir Yvon. Est-ce que c'est l'épisode où il est venu cette fois-ci? C'était avec Geneviève, je crois.
Non, il était solo studio ici, dans le même studio dans lequel on se trouve présentement.
Oui, c'est vrai!
On a jasé pendant 1h30 de temps.
Ben oui!
C'était vraiment une émission incroyable.
Oui, c'était avec Yvon. OK, parce qu'il est venu également dans la...
Avec Jen.
Oui, avec Jen, mais il est venu également avec le docteur Yves Salty.
Oui, ça c'est la première saison.
Oui.
La deuxième saison, il venait avec Jen. C'est à ce moment-là qu'il a dit que les femmes étaient toutes des sorcières.
Oui!
Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à l'aimer.
Et les hommes étaient des crapauds!
Ben oui.
Ne pas oublier. Oh, je l'aime tellement. Mon Dieu. Je te dis, on dirait que je réalise pas. J'ai l'impression qu'il va revenir du Costa Rica. C'est fou, là. C'est l'effet. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça, les auditeurs, de perdre un être cher et qui était, par exemple, en voyage ou bon. Puis, en tout cas, on a l'impression que, tu sais, je me dis, il y a un courriel qui va rentrer.
Ça va prendre un certain temps avant que tout ça soit digéré.
Oui. Donc, on va tout de suite aller à l'écoute de l'épisode 34. Si vous l'écoutez, là, l'émission complète, c'est disponible sur le site de choix Radio X.
À la mémoire d'un grand psychologue, un grand ami et un grand homme, Monsieur Yvon Dallaire. 1947-2024.
Yvon Dallaire, maître en psychologie, auteur, conférencier, consultant. Bonsoir Yvon.
Bonsoir Mel.
Bonsoir Yvon.
Oui.
Bonsoir Marc.
Max.
Max. Très content d'être avec vous deux pour parler justement d'un sujet qui, moi, me tient à cœur depuis très, très longtemps. Là.
Oui.
Le bonheur, seul ou à deux.
Exact.
D'ailleurs, ça me rappelle un jeune homme qui, il y a 2000 ans, est allé voir Socrate ou Aristote, je ne me rappelle jamais lequel des deux, pour lui poser la question existentielle. Devrais-je me marier ou rester célibataire?
Et la réponse fut étonnante.
Et Socrate, après un temps de réflexion, s'est gratté le dessus de la tête et il a dit, peu importe ton choix, tu vas le regretter.
Voilà. C'est vrai.
Ce qu'il faut comprendre dans la boutade de Socrate, c'est que si tu es célibataire, profites-en au maximum.
Oui.
Tu ne sais pas pendant combien de temps tu vas l'être célibataire. Et si tu es marié, là aussi, profites-en au maximum, puisque tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas perdre ton partenaire, peut-être qu'il va mourir, décéder, peut-être qu'il va te quitter. Donc, dans les deux cas, et c'est la définition du bonheur, hein, profiter de ce que j'ai, et moi je rajoute, et de ce que je suis.
Peu importe votre situation, votre état civil, peu importe, le bonheur, c'est ici et maintenant. Et il faut de toute façon apprendre à créer son propre bonheur pour ensuite être capable de le partager.
Le bonheur se trouve seul, a dit Benoît Magimel, un auteur français, et se partage à deux.
Exact.
Donc, les couples heureux sont généralement formés de deux célibataires heureux.
Mais j'ai un peu de mal, moi, avec le terme bonheur. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est tellement, pour prendre le terme à la mode, le galvaudé. C'est quoi pour vous, le bonheur?
Ben, le bonheur, c'est pas nécessairement une accumulation de plaisir physique ou de plaisir relationnel, etc. C'est, le bonheur, pour moi, c'est vraiment quand tu donnes un sens à ta vie, un sens à ton couple, un objectif de vie. On est sur Terre, quelque part, peut-être pour remplir chacun une mission. Et le bonheur, c'est de pouvoir justement arriver à développer ses talents, développer ses forces pour réussir à s'épanouir soi, épanouir les gens autour de soi et faire en sorte que l'humanité, malgré actuellement, vous le savez, tout ce qui se passe en Israël et en Ukraine, malgré le fait que chez l'humain, le pire existe, mais le meilleur existe aussi et il faut travailler à développer le meilleur.
Et l'humain a tendance à désirer ce qu'il n'a pas plutôt que d'apprécier ce qu'on a. Pourquoi? Est-ce que c'est une raison biologique? Est-ce que c'est la dopamine qui nous rend comme ça? Le fait que quand on a quelque chose, on a un petit boost de dopamine, puis après ça, ça s'estompe, donc là, on a envie d'autre chose?
En psychologie, on parle de l'adaptation hédonique. C'est-à-dire, moi, je traduis ça par la douloureuse morale du plaisir.
Okay.
Même les plaisirs les plus intenses, même la femme la plus belle, le gars le plus beau avec lequel tu partages ta vie, à la longue, ils finissent par s'affadir.
Ouais.
Les gens, par exemple, qui gagnent un gros montant à la loto, sur le coup, ils sont archi heureux. Quand on se marie, on est heureux dans la lune de miel, mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on s'habitue à ce genre de situation-là et c'est ce qu'on n'a pas qui devient plus attirant que ce que l'on a.
Okay.
C'est quoi la différence entre le désir et l'envie?
C'est quoi le désir et l'envie? Le désir serait peut-être plus physique, l'envie plus psychologique?
Le désir et l'envie.
Mais ouais, sous toute réserve, je pourrais pas...
C'est vrai que c'est intéressant.
Ça ressemble pas mal.
Oui, le désir... Ben, je pense que l'envie, c'est ça, c'est peut-être... Ben, l'envie, c'est de désirer quelque chose qu'on n'a pas.
Peut-être.
Oui.
Peut-être.
Mais les gens qui sont toujours dans ce qu'on appelle aussi en psychologie, la fuite par en avant. Mm. Au lieu de profiter de ce qu'ils ont, ils cherchent toujours à améliorer, à remplir, à aller vers du plus, continuellement, du plus hard, au niveau de la sexualité, entre autres.
Oui.
On va de plus en plus vers du hard, core. Alors que non, il faut profiter de qui on est. Et de qu'est-ce qu'on a?
Absolument. Et voyez, moi, ma définition à moi du bonheur, c'est d'être bien dans l'ici et maintenant, de ne pas avoir envie d'être ailleurs qu'ici et maintenant.
De toute façon, Mel, on ne peut pas être ailleurs qu'ici
et maintenant. On
ne
peut pas être ailleurs, c'est ça. Et c'est là où j'aime parler avec des gens qui font un peu d'anxiété. C'est facile à dire, là, parce que ça nous arrive tous à un certain moment d'être anxieux. Mais je parle parfois à mes amis et je dis, écoute, ce qui te fait peur là, ben, c'est soit passé, où ça va peut-être arriver. Ouais. Et il y a seulement 5 % des cas, je crois. Hein? C'est environ 5 % des cas où ça se produit réellement.
La peur est un moyen que notre cerveau utilise pour nous dire ce qu'on doit apprivoiser. Alors, arrêtez d'avoir peur de vos peurs. Comprenez le sens de vos peurs. Et à ce moment-là, ça va vous permettre justement de pouvoir faire baisser votre niveau d'anxiété. Et de toute façon, pourquoi on devient anxieux? C'est parce que généralement, on se projette dans un avenir catastrophique.
Oui.
Alors que si on commence à se projeter dans un avenir heureux, ben, on risque de faire baisser de beaucoup notre sentiment d'anxiété, notre phobie.
Voilà. Puis, il y a des gens qui ont peur d'avoir peur. Hein? C'est carrément...
La phobophobie, qu'on appelle.
Oui, exact, c'est ça. Puis, moi, ce que j'aime me rappeler, c'est les bons coups. Ouais. Quand on est dans une période où ça ne va pas, où on a peur, on est anxieux par rapport à une situation qui s'en vient ou des trucs comme ça... Rappelez-vous vos bons coups.
Exact.
Où vous parce en que, êtes aujourd'hui.
Parce que si vous vous rappelez vos mauvais coups, vous allez vous sentir coupable.
Voilà.
La culpabilité provient des mauvais souvenirs.
Oui.
Alors que le bonheur, comme tu le dis si bien, Mel, si je me rappelle les bons coups, si je me rappelle les raisons pour lesquelles je suis devenu amoureux de cette personne-là, ben à ce moment-là, ça ravive le sentiment amoureux.
Voilà. Et docteur.
Je ne suis pas docteur.
consultant, maître en psychologie, Yvon, on a plusieurs types de célibataires, hein? On en parlait dans notre conférence « Vivre seul et heureux pour mieux vivre à deux » qu'on va sans doute refaire éventuellement avec la période de questions. Donc, on a plusieurs types de célibataires. Est-ce qu'on pourrait les énumérer peut-être, en faire part aux gens?
Ben, tu as le célibataire qui est celui qui colle, hein, la sangsue.
Oui.
Dès que quelqu'un s'intéresse à lui, il va s'accrocher à lui, il va vouloir avoir votre numéro de téléphone tout de suite et il va vous rappeler dans les 48 heures. Puis deux semaines après, il est prêt à vous marier.
Est-ce que ça, c'est pas justement, là, on parlait de love bombing là, un peu plus tôt cette semaine, ça peut être des gens qui font ça de façon pas malveillante nécessairement, mais c'est une sangsue, c'est vraiment quelqu'un qui est fusionnel ou c'est quelqu'un qui est mal intentionné?
Qui a une très, très mauvaise image de lui-même et une très belle image de l'autre. Et à ce moment-là, ça devient un dépendant émotif. Je ne peux pas vivre sans le regard de l'autre.
OK.
Alors que le seul regard, le regard le plus important qu'on doit avoir, c'est notre regard intérieur sur lui-même, sur nous-mêmes. Alors, si j'ai une perception positive de moi, une perception positive de l'autre, à ce moment-là, on a beaucoup plus de probabilités de former un couple heureux.
Mais on est dans une société où on vit beaucoup dans le regard de l'autre. On est dans une société où les likes importent, où les petits cœurs qu'on laisse sur les photos importent beaucoup. Alors, comment qu'on fait pour se délester de ça, de cette envie-là de vouloir exister dans le regard de l'autre et apprendre enfin à vivre?
Évidemment, je suis le seul à avoir ce regard-là intérieur sur moi. Donc, ça prend beaucoup de maîtrise de soi, de confiance en soi, d'estime de soi pour arriver à avoir un regard positif. Parce qu'il y a des milliers de personnes autour de nous qui peuvent avoir un regard positif ou négatif. Une stratégie que j'utilise avec les clients qui, pour moi, ont mauvaise estime d'eux-mêmes, on est quoi? On est le 17 octobre aujourd'hui?
Oui.
La neige s'en vient. Hein?
Mm-hmm.
La neige. Il y a des gens qui adorent la neige. Les skieurs ont hâte qu'il neige. Mais il y a 800 000 Québécois qui ont déjà pris leur billet d'avion là, ou leur voiture là, pour s'en aller dans le sud.
Ouais.
La neige, elle est neige. Il y a des gens qui la détestent. Il y a des gens qui l'aiment. Mel, elle est Mel. Mel, elle est la neige. Marc, Max, il est la neige.
Ouais.
Yvon, il est Yvon. Il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui me détestent.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, les gens qui me détestent, tant pis pour eux.
Bien, c'est ça. Hey, ça, là, moi, c'est depuis que j'ai à peu près 39 ans que je me fous réellement de ce que les gens peuvent penser et que je me dis, l'important, c'est que moi, je sois bien et que tant que je ne fais pas de mal à personne et que j'ai des comportements corrects dans la vie, bien, je m'en fous de ce que le monde pense. T'sais.
Quand quelqu'un me juge, j'apprends quelque chose sur la personne qui me juge.
Exactement.
Et cette personne-là a le droit de ne pas m'aimer, comme elle a le droit aussi de m'aimer. Et évidemment, moi, je préfère me tenir avec des gens positifs, des gens qui m'aiment et que j'aime.
Et dans le cas de figure où en couple, il y aurait deux personnes dans le couple, évidemment. Il y a une personne qui a moins, évidemment, à moins d'être un trouble, mais disons qu'il y a une des deux personnes qui a moins confiance en elle que l'autre et elle s'appuie sur l'autre personne pour avoir confiance en elle. Est-ce que c'est quelque chose de sain et viable?
C'est la base de la dépendance émotive. Dans les couples qui vont mal, dans les couples qui viennent consulter, en général, il y a toujours quelqu'un qui étouffe dans son couple et l'autre qui a l'impression de ne pas avoir suffisamment de nous. Okay? Donc, il va vouloir chercher plus d'intimité, plus d'activité, plus de communication, plus de sexualité, alors que l'autre, il y en a assez. Donc, lui, il voudrait plus, ou elle, voudrait plus d'espace, plus de temps pour soi. Okay?
Ouais.
Alors, dans tous les couples, y compris les couples heureux, il y a toujours une espèce de lutte dans ce qu'on appelle le paradoxe de la passion. Okay? Tant et aussi longtemps que dans la lune de miel, on est passionné.
Oui.
Et on a hâte de finir de travailler pour se retrouver ensemble. Et on passe facilement 25-30 heures en tête-à-tête à parler, à rêver notre avenir et à baiser. Okay? Mais à un moment donné, il y a un des deux dont le besoin de fusion est satisfait. Puis là, ben, je vais retourner voir mes copains. Je vais retourner m'investir davantage dans mon travail ou auprès de mes enfants ou de mes amis. Et là, l'autre qui n'a pas le besoin de fusion totalement satisfait, ben, comme le dit si bien la psychologie positive, plus tu me fuis, plus je te poursuis.
Ouais,
mais plus tu me poursuis, plus je te fuis.
Ouais.
Les couples heureux sont ceux qui ont réussi à gérer le paradoxe de la passion et qui fait que ce n'est pas un des deux qui est plus à la recherche de fusion ou plus à la recherche d'autonomie. Ils ont sensiblement le même besoin d'autonomie et de passion.
Et justement, est-ce que ça se peut d'être à ce point-là, un lac d'huile d'être au beau fixe comme ça? Parce que si on part du principe que l'homme est souffrance, en quelque sorte, vous avez déjà entendu la théorie du triangle de Cartman,
oui,
qui dit qu'on est à la fois persécuteur, victime et sauveur, exactement. Oui. Est-ce que c'est possible d'être tellement sain dans un couple qu'on est à égalité, où il y aura toujours un rapport de force différent?
Et 20% des couples y parviennent. Et souvent, ils y parviennent après avoir passé par des moments critiques.
C'est quand même pas beaucoup, hein, 20% des couples,
non,
en fait.
Non.
C'est seulement minime. 20% des couples qui perdurent, finalement.
Oui, c'est ça, parce qu'on sait très bien qu'actuellement, 50% des couples vont finir par divorcer.
Oui.
Et ce taux-là continue d'augmenter.
Mm-hmm.
OK? Parce que nos jeunes, aujourd'hui, ils s'installent en couple très rapidement et démissionnent trop rapidement avant d'avoir compris que le couple est un creuset pour générer des crises de croissance.
Des amours jetables.
OK? Oui. Là. Alors, c'est ça. Là. Mais dans les couples qui viennent nous consulter, dans les couples qui finissent par s'endurer ou se séparer,
oui,
c'est qu'il y en a toujours un des deux qui étouffe dans ce couple-là et l'autre qui a l'impression que nous n'existons pas.
Mm-hmm.
Donc, il y a une espèce de lutte pour le pouvoir, hein, pour pouvoir satisfaire ou mon besoin de fusion ou mon besoin d'autonomie.
Et c'est quoi déjà le pourcentage de couples qui se résignent? Est-ce que
si on parle de 50% de couples qui se séparent,
oui.
Ça, c'est les premiers couples. Parce que les deuxièmes couples, on va jusqu'à 75 %.
Oui.
Parce que... pourquoi ailleurs, ce ne sera pas meilleur, Mel?
Mm-hmm. Ben, pourquoi ailleurs, ce ne sera pas meilleur?
Parce que tu vas y être.
Oui. Effectivement.
C'est profond.
Et si tu n'as pas changé tes connaissances, tes attitudes, tes croyances par rapport au bonheur, par rapport au couple, tu risques fort de répéter exactement le même pattern.
Exact.
Tant il y a aussi longtemps que tu n'auras pas compris le sens du pattern.
Oui.
Okay? Mais c'est ça, c'est que les moments critiques qu'un couple peut vivre ou qu'une personne peut vivre avec lui-même, avec elle-même, ça peut être ce que moi j'appelle des périodes de désintégration positive. Okay? On défait ce qui fait qu'on est malheureux pour pouvoir essayer de reconstruire sur des bases plus solides. La confiance en soi, l'estime de soi,
exact,
etc.
Et qu'est-ce qui expliquerait que le taux de célibataire augmente autant? Parce qu'on est passé là, en 2014, si je ne me trompe, à 36 %
exact,
de taux de célibataire au Québec. 36,5, on est monté à 40, là, on est rendu à plus de 47 % maintenant.
Exact.
Au Canada, si je me trompe, c'est même 52, ça se peut-tu? En tout cas, j'ai...
Non, ça, c'est Paris. Paris, c'est la capitale mondiale du...
On est allé à Paris, moi.
On en a déjà parlé. Hein?
Oh. Moi, Yvon, oui.
C'est la capitale mondiale des célibataires.
Pas facile d'être une vedette.
Oui! On a eu du plaisir, vraiment. On a rencontré les soirées d'Annie, puis en tout cas, c'est vraiment...
Mais c'est pas logique que le taux de célibataire soit aussi haut si tout le monde se divorce.
Ben oui, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qui explique qu'il y a autant de célibataires, en fait? Est-ce que c'est le fait que, ben, premièrement, on a le prolongement de l'espérance de vie, bon,
exact,
inévitablement?
Exact, oui.
Et est-ce que le fait que les gens ont peut-être moins envie, justement, de s'embarquer, puisqu'on a différentes formules également à notre portée? Maintenant, on le sait, la société, la religion, c'est eux qui nous dictaient qu'il fallait être en couple, monogame, habiter sous le même toit, alors que maintenant, parce qu'il faut le dire, dans ces 47 %-là, c'est des gens qui ont le statut état civil célibataire.
Oui.
Donc, peut-être qu'ils sont tout de même en couple, mais dans des maisons séparées.
Oui, oui, il y a ce qu'on appelle des VCCS, vivant chacun chez soi.
Ah, ça aussi, il y en a
c'est
de plus en plus.
C'est la traduction française de « living apart together ».
OK.
Mais il y en a certainement, dans le 47% dont tu parles,
oui,
certains qui sont en VCCS. Généralement, ce sont des jeunes couples qui n'ont pas suffisamment d'argent pour aller avoir leur propre appartement. Donc, ils vivent encore chez leurs parents, qui leur permettent de se visiter dans leur chambre. Et l'autre catégorie de VCCS, c'est des gens qui ont vécu, qui sont séparés, veufs, et qui ne veulent pas, dans une nouvelle relation, mélanger leur tribu et leur patrimoine. Donc, chacun reste chez eux tant il y a aussi longtemps que les enfants sont là. Et parfois, souvent, ben, une fois que les enfants partent, ils décident de s'installer dans le même nid.
Puis, est-ce que je me trompe ou ça pourrait être une façon, justement, qui pourrait être positive dans le sens que relation à distance ou ne pas habiter sous le même toit pourrait venir qu'à être quand même positive dans le sens qu'on peut raviver la flamme ou en n'étant pas 24 heures sur 24 ensemble?
Avoir hâte.
Ouais.
C'est sûr que par définition, je désire ce que je ne possède pas. Alors, si mon partenaire agit comme s'il était possédé une fois pour toutes, ben c'est sûr que le désir risque de s'éteindre. Okay? Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de distance. Parce que s'il y a trop de distance, comme on dit si bien, loin des yeux, loin du cœur, et loin du sexe, et loin de l'âme aussi. Là.
Okay?
Donc, la distance, ça prend une juste distance entre, et les gens mélangent. Ils pensent que l'intimité, c'est la fusion. Alors que l'intimité, c'est une juste distance entre des moments de fusion et des moments d'autonomie. Je reviens au fameux paradoxe de la passion, là.
Oui.
Que tous les couples, s'ils veulent être heureux, doivent apprendre à gérer.
Oui.
Pas à solutionner. C'est impossible que les deux aient toujours en même temps le même besoin de fusion ou le même besoin d'autonomie. Il faut que ça varie et il faut que chacun accepte que, bon, là, tu es très disponible pour moi, mais peut-être que tantôt, tu vas être moins disponible. Okay? Ou peut-être que tantôt, comme ma blonde a déjà dit, Yvon, c'est quand tu retournes en Europe, là, j'aimerais ça avoir un peu de la pelle.
Oh, elle est adorable, René.
Est-ce que vous pensez que la montée en popularité des applications de rencontres, qui sont ni plus ni moins qu'un buffet à écran lumineux incandescent, ça fait en sorte que les gens se séparent plus facilement aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choix qui s'offrent à nous que les amours deviennent par définition jetables?
Ouais. C'est que, à mon avis, la principale raison, c'est qu'on vit dans une société de « me, myself and I ». Et on devient excessivement exigeant. Et si l'autre n'est pas exactement comme je le voudrais, comme la définition de l'âme, ça...
Mais je comprends, mais au début, vous disiez qu'il faut se concentrer sur nous. Faut le bonheur, c'est se concentrer sur nous.
Oui,
puis là, vous dites qu'on vit trop dans une société « me, myself and I ».
Oui, mais c'est partir de nous pour aller vers les autres.
OK.
Alors que ceux dont on parle surtout, c'est que c'est les autres vers moi. Mais myself and I, c'est dans ce sens-là.
Okay,
ça s'appelle
nuance.
De l'égocentrisme.
Okay.
Ouais.
C'est une belle
okay.
nuance.
Okay. Ouais, ouais, ouais.
Il y a une différence. En tout cas, moi,
très
je trouve que le dictionnaire définit très mal le mot égoïsme, parce que l'égoïsme, c'est de partir de moi, de mes besoins, de ce que je veux, de ce que je suis, pour aller vers les autres, vers une autre personne, pour pouvoir trouver un compagnon de vie.
Et l'égocentrisme.
Un invité spécial dans ma vie. Alors que l'égocentrisme, c'est moi qui dois être toujours au centre.
Tout apporter. Ah, c'est bon!
C'est
tabarouette, j'avais pas vu ça comme ça. Vraiment. Mm-hmm. On apprend toujours des choses avec Yvon. C'est toujours hyper fascinant. Donc c'est pas parce qu'il y a des célibataires qui sont bien et heureux seuls.
Non.
Ils ne sont pas nécessairement égoïstes, puisque de toute façon, c'est prouvé, les couples qui perdurent sont formés de deux célibataires
heureux.
Okay.
Mais les études nous démontrent que pour 24% de célibataires heureux, il y en a plus que le double qui sont en couple.
Oh.
C'est plus facile d'être heureux à deux que d'être heureux seul. Et les études qui ont été faites en psychologie positive, Seligman et compagnie, ont démontré que, je ne me rappelle pas le nombre de couples heureux, là, mais ça dépasse 50, je pense, autour de 55% des couples, premier, deuxième ou troisième couple, il y a quand même plus d'un couple sur deux qui sont heureux. OK? Pour 24% des célibataires.
OK.
C'est-à-dire à peine un célibataire sur quatre.
Mm.
OK? Mais ça, c'est sûr que, bon, tantôt je disais, parce que si on commence à jouer dans les chiffres, là...
Ouais. Moi, je fais de la dyscalculie un peu, je inverse sur les chiffres.
80% des gens ne parviennent pas à être heureux en couple. La première fois...
Combien de pourcents?
80%, 50% divorce, 30%
mais
raisin,
ben oui,
et
ben
un
oui,
premier couple à peine 20%.
Oui.
Mais dans un deuxième couple, si on a appris, si j'ai changé mes perceptions, si j'ai changé mes attentes...
Si j'ai travaillé sur moi, sur mes blessures,
baissé,
les
oui,
sites d'attachement...
Si j'ai baissé mes illusions,
oui.
Ben à ce moment-là, j'ai quand même 25% dans un deuxième couple de la possibilité de former un couple heureux.
Mm-hmm.
Et dans un troisième couple, dont je suis, j'ai eu deux premières relations qui ont duré 5 ans.
Oui.
Dans les deux cas, c'est moi qui suis parti parce que j'étais pas bien là. Et la troisième, Renée, que tu connais, que j'ai rencontrée il y a 41 ans, ben c'est la troisième. Et les troisièmes couples, c'est 15%. Alors, si on additionne 20% des premiers, 25% des deuxièmes et 15% des troisièmes, ça donne un peu plus de 50% de couples qui sont heureux ou qui se disent très heureux.
J'ai l'impression que lorsqu'on devient un célibataire heureux...
Ce que j'ai été pendant mes deux périodes de célibat entre mes trois femmes...
Bien, en fait, c'est qu'on devient un peu plus sélectif. Ça devient un peu dangereux puisque j'ai l'impression que lorsqu'on est bien seul avec soi-même, qu'on a découvert nos propres passions, ce qui nous allumait quand on s'entoure de personnes au niveau relationnel, la famille, les amis, tout ça, lorsqu'on est bien entouré et tout, eh bien, de rencontrer la bonne personne, on est de plus en plus sélectif, donc ça peut prendre peut-être plus de temps avant de rencontrer la bonne personne, mais ça ne nous dérange pas parce qu'on est bien.
C'est exact. Si j'ai apprivoisé ma solitude, que je n'associe pas à l'isolement,
la différence.
La solitude, c'est je passe une soirée agréable avec la personne la plus importante de ma vie.
Moi.
Avec laquelle je suis assuré d'être avec.
Oui.
OK. Et sans être narcissique, là.
Non.
J'ai une bonne estime de moi.
Oui.
Et je peux passer une soirée agréable avec la personne la plus importante de ma vie. Okay?
Oui.
Et à ce moment-là, comme tu viens de le dire, on est plus exigeant parce qu'on veut s'élever en amour.
Et pas tomber
et
en
non
amour.
Pas tomber en amour.
Wow.
Il y a une grande nuance.
Ouais.
Parce que quand on tombe, on perd le contrôle.
Ouais,
tout à fait. Donne le contrôle et le pouvoir à l'autre.
C'est vrai.
Et on demande à l'autre de faire pour soi ce que nous-mêmes, on ne fait pas pour soi-même.
Ouais.
Vous avez dit tout à l'heure, à deux reprises, le terme résigner, ce qui signifie aussi abandon. À quel moment dans le couple on doit se résigner? C'est-à-dire que parfois, l'amour, ce n'est pas gage de tout.
À quel moment on
se dit, OK, ça vaut la peine que je me batte.
Ouais.
Ça vaut la peine que j'essaye encore de régler mon couple, alors qu'au final, peut-être que ce n'est pas la bonne personne avec nous. Là.
La différence entre persévérance et acharnement.
Ouais. Exactement.
À moins d'être dans une relation toxique. Où il y a de la violence, où il y a de la violence physique, sexuelle, psychologique, etc., de la manipulation, etc., à moins d'être dans une relation toxique, tous les couples peuvent et valent la peine d'être sauvés et améliorés, à la condition que les deux travaillent dans la même direction.
Ouais.
Et que chacun arrête de se poser la question, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Mais la question, c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour nous? Qu'est-ce que chacun des deux partenaires... C'est ça, le processus thérapeutique.
Ouais.
La thérapie conjugale ne commence pas tant et aussi longtemps que chacun des deux remette l'autre en question et ne commence pas à se remettre en question. Et généralement, qu'est-ce qui fait d'un couple qui est heureux pendant la lune de miel, qui devient malheureux, c'est qu'on attend trop de l'autre. On veut trop que l'autre soit comme je voudrais qu'il soit, au lieu d'accepter que l'autre soit exactement comme il est et de pouvoir en profiter.
Ça, c'est fou, hein, les gens qui souhaitent changer l'autre. Alors qu'initialement, puis ça, moi et d'autres personnes, en fait, on l'a vécu comme ça. Il y a des gens qui sont attirés par notre couleur, par notre extravagance, par le fait qu'on est très sociable et tout ça.
Ou notre côté zen.
Oui, ou notre côté zen. Mais une fois en couple, le partenaire pourrait trouver que la personne est plus zen, est plate,
ou
la personne est trop sociable, trop extravagante. Et là, ce qui était initialement une qualité est devenu un défaut dans les yeux de l'autre. Et l'autre veut éteindre.
Et c'est ce qui fait que les psychologues disent que la raison pour laquelle je me divorce, c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé l'autre intéressante.
Oui!
Et ma façon de dire la même chose, c'est quoi la différence entre « tu m'excites » et « tu m'énerves » 3 à 5 ans.
Ah ouais? Oh!
3 à 5 ans?
Ben oui, la lune de miel, la passion dure 2 à 3 ans.
Environ.
Puis là, tranquillement, je découvre qui est réellement l'autre dans sa réalité, dans ses défauts, dans ses faiblesses.
Période de désenchantement.
Et si je mets... C'est la première crise dans l'évolution d'un couple, la phase de désidéalisation. Et si je mets l'accent à ce moment-là sur qu'est-ce que j'aime pas chez l'autre, c'est évident que... Vous savez qu'aujourd'hui, le taux de l'âge moyen de la séparation, là, c'est 4 ans et demi. Hein.
Ah oui?
Alors qu'il y a quelques décennies, c'était la 7e année qui était l'année médiane, l'année charnière. OK? 50 % des couples qui divorcent aujourd'hui divorcent avant 4 ans et demi. Ça correspond généralement à la période de désidéalisation et souvent à l'arrivée du fruit de notre amour qui redevient le fruit de la division.
Ouais. Et on poursuit tout de suite avec les différents types de célibataires.
J'ai parlé de la sangsue.
Oui, la sangsue.
Qui a hâte, lui, de trouver quelqu'un. Okay, mais il y en a 6 autres.
Oui.
Il y a l'ours grognon. Celui qui est toujours en train de critiquer contre tout, là.
Ah oui, ça, c'est tannant, ça. Y a-t-il quelque chose à faire contre ces hommes grognons-là?
Ah ben, les fuir.
Ah, OK.
Pas hiberner avec eux autres.
Non. Pas essayer de les convaincre que la vie est belle, etc., etc. Non, on les fuit. On le laisse dans sa merde, excusez l'expression. Là.
Ben oui, ben c'est ça.
Il y a aussi le pan.
Ah oui, le...
Ouh. Oui, celui qui court tous les 5 à 7. Celui que vous voyez partout, quand il est quelque part, tout le monde le voit. Il s'organise toujours pour attirer l'attention. Mais il a peur de s'engager.
Donc, c'est un évitant. On pourrait-tu trouver les styles d'attachement à ce monde-là?
Tous ces célibataires malheureux ont généralement une mauvaise estime d'eux-mêmes qui vont essayer de transformer. Le pan, lui, essaie de transformer en se montrant le plus beau possible. Mais il n'y a pas une belle image intérieure de lui-même. Là. Okay? Il y a aussi la fourmi.
Oui!
Le célibataire, lui, c'est le travailleur. Il passe son temps à travailler et il se dit, un jour, quand je serai devenu millionnaire, je pourrai enfin m'occuper de ma vie privée. Okay? Et essayer de trouver quelqu'un. Okay? C'est quelqu'un qui est très riche, qui se promène en belle voiture, etc., qui a tous les
plus beaux vêtements. Et on en connaît, hein?
Mais, on en connaît beaucoup.
On en connaît tous.
On en connaît beaucoup.
Qui lui aussi a peur de s'engager. Oui. Il y a le caméléon. Il va toujours vous dire oui. Il est toujours d'accord avec vous. Et s'il parle avec quelqu'un d'autre qui dit le contraire, il va être d'accord avec lui.
Oui, c'est plate, ça.
Okay? Il s'adapte aux gens qui sont autour de lui et a peur de s'affirmer dans sa différence.
C'est-tu quelqu'un qui n'a pas de personnalité, ça, le caméléon?
C'est
quelqu'un qui ne veut pas déplaire.
C'est quelqu'un qui ne veut absolument pas déplaire. C'est un dépendant émotif qui a absolument besoin du regard positif de l'autre. Donc, il n'ira pas le contredire pour ne pas provoquer.
Il y a des gens comme ça aussi qui sont très serviables, qui sont très généreux, mais tout ça, c'est tout simplement pour vivre dans le regard de l'autre et recevoir des merci et avoir l'impression de...
d'être aimé.
Oui, exactement. J'ai déjà lu, moi, ces gens qui veulent plaire à tout prix.
Oui.
Donc, c'est un livre que vous pourriez lire si vous êtes de ce type-là. Oui. C'est quelque
chose qui peut
aider. La dépendance
émotive, il y a énormément de gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas être bien s'il n'y a pas quelqu'un qui les aime.
Exact.
Alors, il faut... On parlait de Lucien Auger tout à l'heure, hors onde. Dans lequel Lucien a écrit un petit livre qui est un véritable bijou, « S'aider soi-même, une thérapie par la raison ». Et un des objectifs qu'il dit, ou une des stratégies qu'il faut utiliser, c'est faire baisser son besoin d'approbation. Même si les gens ne sont pas d'accord avec moi, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de valeur. Okay? Je reviens à l'histoire de la neige tantôt. Là.
Oui.
Je suis la neige. Il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui ne m'aiment pas. So what? Ceux qui ne m'aiment pas, tant pis pour eux.
Ouais.
Ceux qui m'aiment, tant mieux pour eux.
C'est que peu importe ce qu'on va faire dans la vie,
oui,
il y aura toujours des gens qui vont juger. Peu importe.
Il y a des grognons.
Ah oui, des grognons. Et la meilleure preuve, OK, en ayant créé une application de rencontre, j'étais en couple depuis déjà 5 ans quand j'ai créé l'application de rencontre Go See You. Et là, il y a des gens qui me disaient, ben voyons, tu as créé une application de rencontre puis tu es en couple. C'est pas un peu bizarre? Je connaissais plein de gens à matcher, donc je trouvais que c'était une bonne idée.
Un gars qui travaille sa construction peut construire des maisons et en avoir une.
Ben voilà. Et là, lorsque je suis tombée célibataire, je recevais les commentaires suivants. Mais là, t'es célibataire puis t'as une app de dating. Est-ce que ça marche pas ou quoi? Ben voyons les gens. Premièrement, jamais j'utiliserai mes propres services de rencontre pour rencontrer parce que ce serait vraiment pas éthique, selon moi.
Non.
Mais en plus, je veux dire, j'ai une vie comme tout le monde. Une sexologue n'a pas nécessairement pratiqué tout ce qu'elle traite. Ben c'est ça. Fait que les gens ont toujours quelque chose à dire, peu importe.
Ouais,
et les gens se fient toujours sur des parcelles de vie que vous partagez, que ce soit en story qui disparaît au bout de 24 heures sur les réseaux sociaux ou des posts sur les réseaux. Les gens se servent de ça pour juger. Ils vous créent une vie que vous n'avez pas.
Ouais.
C'est hallucinant, là.
Puis vous avez mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, Yvon. Vous avez dit « baisser notre besoin d'approbation selon la psychologie de Lucien Auger ». Parce qu'on ne peut pas la faire disparaître. Hein? L'homme, la femme est un animal qui, à juste mesure, a quand même besoin d'approbation.
Ben
donc,
oui,
tout ce qu'on
ben
peut faire,
on est des
c'est le baisser.
Sociaux.
C'est un
on
besoin.
On est à la recherche de communautarisme. Okay? Et la base du bonheur, un des deux piliers du bonheur à long terme, c'est la chaleur des relations humaines. Donc, c'est sûr qu'on est des animaux sociaux qui recherchons. Et quand on a un réseau d'amis, ça n'en prend pas 50, là. Attends, un bon petit réseau d'amis et un invité spécial dans ta vie, que j'appelle un partenaire de vie, un conjoint, ben à ce moment-là, et si en plus on est gratifiant par rapport à la vie, c'est les deux piliers du bonheur, hein? La chaleur des relations humaines, dont une relation privilégiée, et la gratitude envers les gens qui nous entourent, envers le matériel qui nous rend la vie beaucoup plus facile, etc.
Puis, dans l'échelle des besoins essentiels dans la vie, aimer, être aimé, ça fait partie.
C'est la troisième étape.
Mais ce n'est pas essentiel d'avoir un partenaire. Non. Donc, on pourrait très bien être seul, célibataire, mais être très bien entouré.
L'amour n'est pas un besoin vital.
OK.
Il faut arrêter de s'illusionner. Manger,
l'affection,
manger,
t'as besoin vital?
Déféquer, se protéger des intempéries, dormir, ce sont des besoins vitaux.
OK.
Et après, les besoins vitaux satisfaits, ben, c'est le besoin de
communiquer.
Ça, c'est plus aussi. Ah. C'est le besoin d'appartenance.
Oui.
On vient d'où je suis avec qui, etc. Et le besoin d'aimer et d'être aimé vient en troisième lieu.
Mm.
OK? Donc, de pouvoir satisfaire ses besoins physiques, pour essayer de survivre. Remarquez qu'il y a des gens sur Terre actuellement qui passent 80 % de leur temps à assurer leur survie physique.
Ouais.
Okay? Nous, on est chanceux dans notre milieu. Là, on est très. On passe quoi? 20 % de notre temps à assurer notre survie physique. Il nous reste 80 % de notre temps pour faire autre chose.
Créer d'autres problèmes.
On peut-tu prendre deux minutes pour.
La créativité, justement.
Exactement.
Voilà. On peut-tu prendre deux minutes juste pour dire qu'on est tabarouettement chanceux d'être ici,
oui.
dans ce coin de pays oui. où c'est calme, où on peut sortir, retourner à la maison tranquille, alors qu'à l'autre bout du monde, il y a des gens qui reçoivent des bombes sur la tête.
Il n'y a aucun doute. Le monde est injustice.
À l'abri. On ne sait jamais quand est-ce que ça peut exploser.
Voilà. Mel, oui, Mel me parle beaucoup d'un livre ces temps-ci,
oui.
La magie.
La magie.
Puis elle me parle de la gratitude, à quel point c'est important. Exactement, la loi d'attraction, à quel point c'est important de l'exprimer. Est-ce que vous pensez, vous, que dans une relation, apprendre à exprimer sa gratitude, non seulement envers nous, mais envers l'être aimé, c'est quelque chose qui peut nous apporter le bonheur?
Les seules émotions qu'on devrait exprimer, ce sont les émotions positives.
Mais c'est impossible, ça.
Oui, c'est possible.
Mais non, mais
c'est les gens heureux, c'est ce qu'ils font.
Mais oui, mais vous ne pouvez pas me demander juste d'exprimer des émotions positives oui. alors qu'on en vit tous
c'est
au quotidien.
C'est quoi une émotion?
C'est un ressenti.
Une émotion, c'est un message que mon corps m'envoie à moi pour me dire que j'ai un besoin satisfait.
Oui.
Donc, je suis heureux.
Ou à satisfaire.
Content, ou insatisfait. Et s'il est insatisfait, ben, je suis en colère contre la personne qui me frustre.
Donc, il ne faut pas exprimer cette émotion-là.
J'ai peur que mon besoin de sois pas jamais satisfait. Je me sens coupable de ne pas être capable de le satisfaire. Je me sens triste parce qu'il n'est pas satisfait.
Donc, on n'en parle pas?
Non.
Quoi?
Ravaler une émotion dite négative, désagréable, ça n'a jamais donné le cancer. Ça, c'est l'exploitation de la naïveté
maladie,
des gens.
Mal à dire, c'est pas vrai, hein, ça.
Non.
C'est ce que le docteur
Mais les
dit.
Gens heureux.
Ouais.
Alors, apprendre à verbaliser ces émotions néfastes, ce qu'on ressent qui nous fait sentir mal, c'est pas bon selon vous?
Ben non. À chaque fois que je dis, que j'exprime ma colère, je sensibilise les neurones associés à ma colère dans mon cerveau et je vais me mettre en colère pour des raisons de plus en plus futiles.
On fait des amalgames.
Si à chaque fois que j'ai une déception, je me mets à pleurer, à chaque fois que je pleure, je stimule les neurones associés à la tristesse.
Fait que des choses de moins en moins tristes vont...
Je vais me mettre en tristesse de plus en plus pour des raisons futiles et je vais finir par déprimer.
Oh.
Mais oui, ce qui est vrai pour les émotions dites désagréables, à chaque fois, Max, que je vais dire que je t'aime, je vais stimuler les émotions, les neurones associés à l'émotion amour et on incentre du bonheur dans le cerveau. Là. Et à ce moment-là, je vais stimuler ces émotions-là puis je vais t'aimer de plus en plus. Et c'est drôle, tu vas te comporter de façon de plus en plus aimable. Qui n'aime pas se faire dire qu'il est beau, fin, gentil?
OK, alors c'est notre réaction par rapport aux événements qu'il faut tenter de changer. Oui. Mais vous comprenez que c'est quelque chose de presque impossible. C'est-à-dire que c'est un réflexe humain d'éprouver de la colère envers quelque chose, d'éprouver de la honte envers
quelque
chose.
Surtout chez les impulsifs.
Puis on ne peut pas le ravaler comme ça d'une minute à l'autre.
Il ne faut pas ravaler, il ne faut pas réprimer. Il faut comprendre le message sous-jacent. OK?
Lire entre les lignes.
Oui, de dire par exemple à mon partenaire « t'es jamais là ». Au moment où il est là.
Comment on pourrait le dire à ce moment-là? Ah, mais c'est vrai! C'est bon, ça! OK. Donc,
je m'excuse, mais
oui.
quand mon partenaire est là, lui dire, mais j'aime tellement ça quand t'es là, mon amour.
Ah, je comprends!
Okay. On ne fait jamais rien ensemble. Hey, au lieu de dire ça, parce que l'autre, il s'est attaqué, cavalier d'Apocalypse, devant une attaque, je me défends, je me justifie. Alors, chérie... Hey, la dernière fois qu'on est allé au cinéma, j'ai tellement aimé ça, j'aimerais ça y retourner avec toi.
Ah, oh, c'est bon, OK!
C'est ça, okay, parler positivement. Les couples malheureux sont devenus experts en communication merdique.
Donc, on se pique sans
les
cesse.
Les couples heureux sont devenus experts en communication florale.
Parce qu'on est des animaux esselés, puis on essaye de mordre l'autre parce qu'on souffre nous-mêmes.
Oui.
Alors, quand on est blessé, ce qu'on devrait faire, c'est apprendre à penser nos propres blessures pour éviter de jeter notre dévolu sur notre partenaire.
En dessous de chacune de nos émotions, il y a un besoin. C'est le besoin qu'il faut exprimer.
Wow! Hey, on fait ça.
Pas la frustration.
Mise en contexte.
Pas le besoin.
Ouais,
pas l'émotion négative.
Donc, si vous ne faites pas l'amour assez souvent à votre goût, quand vous le faites, dites-le à votre partenaire à quel point vous aimez faire l'amour avec elle
et
ou avec
rappelez-vous
lui.
Rappelez-vous tout ce que vous faisiez pendant la lune de miel qui faisait qu'il n'y avait pas de problème sexuel à ce moment-là.
Ça, je le dis souvent. Remémorez-vous votre lune de miel. Redatez-vous dans un endroit que vous n'avez jamais visité. Une nouvelle activité, quelque chose de...
Dans mon bureau, les couples se disputent des fois. Et là, je dis, time out, on arrête, là. Qu'est-ce que vous faites? On est en train de se disputer. Puis là, je demande généralement à madame en premier, parce que monsieur, quand il est pris avec une émotion négative, il est bloqué, là. Il est stallé, comme on dit en anglais. Alors, je demande à madame, qu'est-ce qui fait que vous êtes devenue amoureuse de ce crapaud-là?
Ah oui, parce que là, on va expliquer hein, le crapaud et la sorcière. Il faudrait expliquer, Yvon, là. On peut pas aller là direct sans explication.
Alors, si madame... Oui, mais il était tellement fin, tellement ci, tellement ça, à ce moment-là. C'était fantastique. Mais si elle me répond, ben justement, je me le demande. Oula, moi, je sais, je suis capable de gager si ce couple-là va survivre à la thérapie ou pas.
Puis en conférence, Yvon, tu parles souvent justement là, du crapaud et de la sorcière.
Oui.
Est-ce qu'on peut expliquer aux gens? Ça sort d'où, ça?
Ben, crapaud, c'est une belle manifestation de la vie.
Une belle, on n'est pas sûr.
Ben oui, c'est une belle manifestation de la vie. Tous les animaux, ils sont faits comme ça. Les gens qui disent c'est laid ou c'est beau, c'est une perception très subjective, ça.
Mm-hmm.
Un crapaud, c'est ni laid ni beau, c'est comme la neige. Dont
c'est
on parlait
vrai.
Tantôt.
Ah, comme la neige a neigé.
J'ai partagé quelque chose récemment et je demandais aux gens, imaginez si on pouvait voir l'âme des gens plutôt que
leur physique.
Ou leur comportement. Le comportement
leur
peut
comportement.
Être agressant,
oui.
violent, mais la personne, elle est souffrante.
Oui,
elle est
ça.
Sensible.
Donc, imaginez à quel point le point de beauté, à
ça.
Quel point l'image de la beauté serait différente si on pouvait voir l'âme des gens plutôt.
Ouais. Il y en a qui physique. Croient en Dieu, un être supérieur là, qui nous attend quelque part.
Ouais.
Mais Dieu, il est au fond de Max. Il est au fin fond de...
Amen! Alléluia!
Je suis Dieu.
On parlait de l'importance de se remémorer les lunes de miel du début, c'est-à-dire il y a une effervescence au début.
Ben oui.
C'est
oui.
exact, là, tout le monde le sait. Ça veut-tu dire que la routine puis le confort, c'est un tue-l'amour?
Ben, c'est parce qu'au début, on n'est pas en amour avec l'autre.
On est en amour avec l'image qu'on a de l'autre.
Non, on est en amour avec les sensations, les émotions, les rêves
okay.
qu'on a. Mais un jour ou l'autre, je découvre le crapaud ou la sorcière. Et si monsieur n'apprend pas que le mot sorcellerie veut dire sagesse et connaissance, il n'acceptera jamais de recevoir des conseils non sollicités de sa partenaire. Et les sorcières adorent nous donner des conseils non sollicités pour nous améliorer.
Fait que les boys, bon. Quand votre femme vous parle, il faut que vous écoutiez.
Quand votre femme vous donne un conseil non sollicité, dites-lui « Merci beaucoup, mamante. »
Mamante?
Oui.
Mamante.
C'est comme un mélange entre maman puis...
Amante.
Amante, ah, OK.
Ben oui, on peut pas sortir une maman d'une femme.
Je pensais à une mante religieuse, là, tu sais, le genre de bébite qui mange l'autre.
On peut pas sortir une maman d'une femme?
Non, non. Toute femme est une maman, même si elle n'a jamais enfanté.
Ah oui?
Vous êtes des êtres altruistes, vous prenez soin des autres.
On est maternel.
Vous êtes maternant.
Ouais. Tout
ben
le
oui.
monde, toutes les femmes sont comme ça?
Sauf
exception,
je pense. Sauf exception. La loi du 80 s'exprime là aussi.
Okay. Loi du 80. On peut aller là, la loi du 80-20?
Oui.
Ou... Moi, je suis partout.
Dans
hein,
toutes les directions.
Je suis comme ça. TDAHI, impulsivité. On va vers la loi du 80-20. Yvon, est-ce qu'on peut expliquer aux gens qu'est-ce que la loi du 80-20?
C'est qu'on passe 80% de notre temps à faire des choses inutiles pour 20% du temps pour des choses utiles.
Ah! OK, moi, je parlais de la loi en amour, mais oui, c'est pas faux ça aussi. Là.
Au travail, mais... en amour, c'est vrai partout.
Puis en amour, on aurait 80% chez notre partenaire. C'est ça, 80% ou 70% de compatibilité pour une relation?
Non, ça prend au moins 70% de compatibilité.
OK.
Parce que le couple est un creuset pour générer des crises. Arrêtez de vous imaginer que si vous rencontrez l'illusoire âme sœur, qui n'existe ailleurs que dans vos têtes, OK, et que si vous parlez ensemble et que vous communiquez, que vous faites l'amour, vous allez être heureux pour le reste de votre vie avec deux enfants. C'est de la foutaise.
La ça réalité, peut pas être plus clair.
La réalité, c'est qu'après la lune de miel vient nécessairement une espèce de lutte pour le pouvoir entre ce que madame veut et ce que monsieur veut. Et cette lutte pour le pouvoir-là n'est pas mauvaise en soi si elle permet à chacun de s'affirmer. Et elle n'est pas mauvaise à la condition que chacun veuille bien accepter d'apprendre l'un de l'autre.
Est-ce qu'elle est éternelle, cette lutte-là?
Elle est présente, y compris chez les couples heureux. Okay? Sauf qu'eux, ils gèrent plus facilement et vont passer plus rapidement au partage du pouvoir.
Mmh.
Nous, est là pour satisfaire les besoins de monsieur. Et les besoins de madame, il n'y aurait pas de problème si les besoins de monsieur et de madame étaient la même chose, dans le même ordre de priorité. La réalité, c'est que ce qui est le plus important pour monsieur, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus important pour madame. Okay? Donc, c'est là où la lutte pour le pouvoir est. Et pour illustrer ça, dans mon bureau, j'ai un damier sur lequel il y a un jeu de dames. Et en face, des pièces d'un jeu de dames. Et en face, des pièces d'un jeu d'échecs.
Oh.
C'est ça, un couple. Le couple, c'est le damier. Madame joue aux dames, aux échecs. Parce que vous êtes assez changeante. On ne sait jamais quelle femme va arriver à la
maison. Oh, Yvon, Yvon!
Oh!
Yvon!
Alors que nous, on est plutôt linéaire, donc on joue aux dames. Deux jeux intéressants, mais qu'on ne peut pas jouer en même temps.
Non, effectivement.
Mais on peut alterner les deux jeux.
OK.
Okay, un soir, on joue aux dames, le lendemain, on joue aux échecs, pour arriver à ce que font les couples heureux, à développer un troisième jeu, intégrant certains règlements du jeu de dames, certains règlements du jeu d'échecs. Et tout le monde est content à 80 %
Oh, OK.
Les couples heureux se situent à 80 % amants intimes et 20 % ennemis intimes.
À la mémoire d'un grand psychologue, un grand ami et un grand homme, Monsieur Yvon Dallaire, 1947-2024.
Bon, merci Max pour d'avoir choisi cet extrait-là. C'est vraiment touchant de le réentendre.
C'est vrai.
Vraiment. Donc, pour réécouter l'extrait complet, je répète, c'est le guide des couples et célibataires heureux sur le site de Choix 98.1 Radio X, l'épisode 34. Donc, Yvon Dallaire qui nous a quittés le 31 janvier dernier. Merci Yvon. Ça a été un honneur de pouvoir te côtoyer, d'avoir été... d'avoir vécu tous ces beaux moments-là avec toi. Et on va se dire... À bientôt, on va te faire nos adieux dans quelques jours avec tes proches et ta famille. Et on va se dire à vous tous, chers auditeurs, merci d'être à l'écoute, merci d'être là. Et en votre nom, au nom de tous ces amis, au nom de tout le monde, Yvon, on te fait nos adieux. Mais on se dit à bientôt, un jour, on va se recroiser sans faute. Et Max, merci d'avoir été là ce soir encore une fois.
Merci à toi.
On se dit à demain. Vous étiez à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de Choix 98.1 Radio X.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel.